Sur les questions d'Alain, l'évaluation des différents risques, leur valorisation et la difficulté de le faire d'un côté, et puis de l'autre côté sur le nucléaire, l'avantage français, je voulais vous entendre maintenant les uns et les autres, et on va peut-être commencer à nouveau par vous, Jacques.
Ben écoutez, il suffit de lire le rapport Louis Gallois pour voir qu'il met en avant le fait que grâce à un bas prix de l'électricité, on a un avantage comparatif. On n'a quand même pas, comme le rappelait Alain, suffisamment de domaines industriels où on est compétitif pour se priver d'une filière où on est, je dirais, en pointe dans ce domaine. Alors, à l'heure actuelle, comme vous le savez, ça a été rappelé tout à l'heure, le prix du kilowattheure payé par un ménage français en moyenne, c'est 130 euros le mégawattheure, c'est-à-dire 13 centimes d'euros le kilowattheure. Là-dedans, il y a 40% du prix de revient du kilowattheure sorti central, il y a 35% des réseaux, ça de toute façon, quelle que soit l'électricité, elle paiera ses réseaux, et puis il y a à peu près 25% de taxes, notamment la taxe qui permet de financer le surcoût des renouvelables. Donc ce qui compte, c'est le prix sorti central. Le nucléaire, là, est le moyen le plus compétitif. Je parle des réacteurs actuels, hein, deuxième génération, c'est-à-dire les 58 réacteurs PWR en France, Westinghouse au départ, filière francisée depuis. Donc, sur ces 58 réacteurs, la Cour des comptes, je veux dire, tout le monde peut contester, il y a eu plusieurs rapports, bon, je ne vais pas citer le rapport lequel j'ai fait avec Claude Mandil, mais enfin, bon, il y a eu pas mal de rapports sur le nucléaire, souvent, ils sont contestés. Il y en a un sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est la Cour des comptes, qui a une autorité dans ce domaine. La Cour des comptes dit, le nucléaire, le prix de revient, c'est 50 euros le mégawattheure dans l'état actuel des choses, elle dit 49,5. Si on tient compte de l'allongement de la durée de vie des centrales avec des investissements de jouvence, on va à 54. Elle reconnaît, il faut nuancer, elle reconnaît que dans ces 50 euros le mégawattheure, eh bien, il y a bien sûr des coûts de démantèlement qui sont prévus, coûts de gestion des déchets. Elle met quand même l'accent sur le fait qu'il est possible que les provisions pour ce démantèlement et la gestion des déchets soient sous-estimées. Elle n'a pas tort, elle est prudente. Elle dit qu'il est faux de dire qu'on n'en tient pas compte. Elle n'est pas sûre qu'on ait pris les bons chiffres. Elle reconnaît que le prix de l'EPR, les nouveaux réacteurs, c'est plus élevé, 75 euros le mégawattheure. Mais elle ajoute que pour l'EPR, comme pour les renouvelables, il faut faire confiance aux économies d'échelle, c'est-à-dire au fait que si on fait beaucoup de réacteurs, ça baissera. Elle est prudente, elle dit si ça baisse, ça peut baisser à 60, elle ne croit pas que ça baissera en deçà. Donc 50 euros le mégawattheure pour le nucléaire, on est à peu près à 80-85 pour l'éolien onshore, on est à 150-200 pour l'éolien offshore, on est entre 200 et 400 pour le photovoltaïque. Certes, le photovoltaïque, les renouvelables, ça va baisser grâce aux économies d'échelle. Certes, le nucléaire, ça risque de monter parce que si on met davantage d'investissements sur la sûreté, ça peut monter. Donc, évidemment, on peut observer qu'à un moment donné, ça peut se rejoindre. Il n'empêche que dans l'état actuel des choses, le nucléaire français, ça permet à l'économie française d'avoir, je dirais, un prix de revient du kilowattheure qui est deux fois moins que celui des Allemands. Alors, c'est important pour la compétitivité des entreprises industrielles françaises, c'est important pour l'exportation française en matière d'ingénierie, c'est important aussi pour les ménages, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de précarité énergétique. C'est vrai que le kilowattheure nucléaire est cher en France, mais il est plus cher dans d'autres pays. Donc, si on tient compte aussi de cette contrainte-là, il faut avoir conscience que si on fait des choix différents, eh bien, il y aura des conséquences à la fois sur l'industrie et sur, je dirais, le pouvoir d'achat des ménages. Donc, je ne dis pas que le nucléaire, c'est la solution à tous les problèmes. Je dis que dans l'état actuel des choses, on a un outil de production qui, pour des raisons historiques, est efficace. Je crois que la politique française, si vous voulez, c'est très intéressant d'observer que l'État en France a toujours pris les bonnes décisions. Après 1945, on a dit, pour reconstruire l'économie française, il faut faire confiance au charbon et à l'hydraulique. On s'est rendu compte que le charbon français était trop coûteux dès que l'économie française s'est ouverte après le traité de Rome. On est passé au pétrole à grande échelle. On s'est rendu compte au moment du choc pétrolier qu'on dépendait trop du pétrole parce qu'une grande partie de l'électricité était faite avec du fioul. Et donc à ce moment-là, ça a été le fameux plan Messmer 74, financé d'ailleurs par le consommateur français, puisque les prix de l'électricité ont monté. Bon, il se trouve que ça a donné un avantage comparatif. Il ne faut pas aujourd'hui, je dirais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc je crois que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de faire des efforts dans l'efficacité énergétique, le renouvelable ou dans d'autres domaines. Simplement, il ne faut pas aujourd'hui regretter, je dirais, un choix qui, à un moment donné, a permis à la France d'être compétitive et lui a donné une filière industrielle qui est importante. Alors, je crois qu'un des gros problèmes du nucléaire, c'est que son origine est militaire dans tous les pays. Je crois que si on avait une technologie dont les premières applications n'avaient pas été militaires, on aurait probablement une perception des risques, une vision de l'industrie qui serait différente. Je crois que cet élément a joué probablement.
Merci, Bernard.
Je dirais, et j'en ai l'expérience puisque j'ai travaillé là-dedans, ça a joué dans l'autre sens. Un, parce que tout l'argent qu'on a mis dans le militaire a servi pour le civil, et que les technologies qui ont été mises au point par le militaire ont été transposées immédiatement sur le civil. Et deux, et ça je parle au niveau des scientifiques, le civil a été une rédemption par rapport au militaire. Et donc, et en plus, l'image des risques du nucléaire n'était pas du tout la même. Dans les années 60, le nucléaire militaire, chez beaucoup de gens, a été considéré comme dangereux du point de vue en tant qu'arme. Par contre, le nucléaire civil était considéré comme très très bien. Deuxièmement, si les critères, comme le dit Percebois, sont uniquement économiques, on a une filière, elle marche, elle n'est pas si chère que ça, dans quelques années, il est probable qu'elle sera plus compétitive, mais pour le moment, elle l'est. Alors c'est vrai, l'EPR est plutôt plus cher que l'éolien onshore, mais bon, gaspiller un peu, c'est pas forcément très grave. La question, c'est pas ça. La question, c'est la question du risque. C'est-à-dire que si, effectivement, ce qui vient d'être montré sur le plan économique, c'est de dire que, bof, c'est un peu moins, c'est peut-être un peu moins cher, le nucléaire actuel qui a été amorti, etc., est un peu moins cher que le reste. L'avantage compétitif sur l'industrie française, il faudrait alors vraiment qu'on m'explique pourquoi l'industrie allemande, qui paye soi-disant son électricité plus cher, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément vrai, puisque pour l'industrie, à ce moment-là, ils achèteraient uniquement en France. Donc tout ça est un peu du baratin quand même. Pourquoi l'industrie allemande est si puissante et l'industrie française aussi débile? Bon, si on a eu depuis 30, 40 ans un tel avantage sur le prix de l'électricité. Je pense que ce facteur-là ne joue pas beaucoup. Mais la question, c'est le risque. Alors si le risque... Alors les probabilités, elles ont été très utilisées pour dire que le risque était très faible quand c'était 10-6. Hein? Mais si on vous dit les probabilités, écoutez, donc c'est très bien pour discuter du détail, mais ce n'est pas le chiffre qui va nous permettre de juger. Sur quoi on va juger? Sur la confiance qu'on fait ou qu'on ferait à l'exploitant, au constructeur, et donc totalement en dehors des citoyens. Vous êtes bien d'accord? Donc moi, je pense que le risque, il faut l'apprécier de la façon suivante. C'est de dire, si on était persuadé qu'il n'y a aucun risque, on applique le raisonnement de Percebois en disant, écoutez, on a une industrie qui marche, c'est pas beaucoup plus cher ou c'est plutôt moins cher que le reste. Je remarque que personne ne compare ça aux économies d'énergie ni aux économies d'électricité, qui sont à mon avis nettement moins chères et qui pourraient déjà faire une partie du chemin. Mais admettons. Par contre, à partir du moment où on sait que cet accident grave est possible, on se place dans la situation pour choisir, sans être expert, en disant, est-ce que la collectivité accepte qu'il y ait, de temps en temps, un Fukushima? Donc probablement aussi en Europe et probablement aussi en France. Si la réponse de la collectivité, qui ayant vu ce qu'était Fukushima, ses conséquences et tout ça, est oui, très bien. Mais je pense que ça ne sera pas forcément oui. Je pense que les gens seraient prêts même à faire des sacrifices du point de vue de leur consommation d'énergie, etc., s'ils prennent conscience que qu'est-ce que c'est qu'un Fukushima sur le Rhin, sur le Rhône, sur la Loire, sur la Seine ou sur la mer. Et si on n'a pas de critères quantitatifs du genre 10-6, 10-4, 10-5, puisqu'on nous le reproche, alors prenons ce critère simple en disant, j'imagine l'accident majeur à Bugey, que disent les citoyens de Lyon? Voilà.
Merci Bernard, vous avez posé évidemment une question absolument majeure. On continue le tour avec Alain.
Oui, deux, trois choses. Sur la question des probabilités, je partage malheureusement le point de vue de mon voisin de gauche. Ça va lui faire plaisir, il ne faut jamais être d'accord avec l'animateur de la séance. À savoir que c'est complètement clair qu'on peut à l'infini faire des modèles. Je respecte considérablement le travail des autorités de sûreté et le travail des ingénieurs et des techniciens de toute l'industrie nucléaire. Donc c'est tout à fait. Je suis très convaincu par le fait qu'il y ait des progrès dans la prise en compte des risques. Je suis convaincu du fait que les calculs scientifiques qui sont faits sont pertinents et font avancer le schmilblick. Je ne suis pas du tout convaincu par la capacité de ces calculs à représenter des événements qui sont improbabilisables a priori. Bon. Donc imaginons qu'on croise une épidémie majeure qui serait liée à une petite bête bizarroïde liée au changement climatique qui devienne endémique, qu'il y ait 35% du personnel qui soit instantanément chez lui, que ça se croise avec un événement extrême très peu probable, mais qui arrive pile au mauvais endroit, que tout ça se passe à Blayais, à côté de Bordeaux. Je ne vois pas très bien ce que les calculs ex ante peuvent nous dire là-dessus. Donc c'est à peu près l'analogie des subprimes, c'est excellente. Les financiers n'ont pas arrêté de nous expliquer que les calculs de valeur d'option, ils étaient fondés sur des modèles et des représentations stochastiques étaient pertinentes. Elles ne sont pas du tout pertinentes. Bon. Donc ça, là, je suis très, très sceptique sur cette question-là. Donc je partage le point de vue de Bernard, indépendamment de toute forme d'affection, sur le fait que je ne vois pas comment les autorités de sûreté et les producteurs peuvent nous garantir zéro accident. Et comme je suis très sensible à ce qu'a dit Kathleen, à savoir, l'enjeu social, c'est pas l'enjeu de la probabilité objective de l'accident. L'enjeu social, c'est sa perception. Je comprends bien qu'il suffit qu'on ait un accident de ce genre pour que c'est des conséquences cataclysmiques sur l'ensemble de l'industrie. Et ce risque-là, qui est un risque subjectif, me paraît central dans un choix de politique énergétique. Deuxièmement, je vais être un peu désagréable avec Alain, malgré l'affection très forte que j'ai pour lui. C'est que dire que les Japonais n'ont pas abandonné le nucléaire, c'est un fait. Mais regardons quand même un peu ce qui se passe au Japon. Hein. Les choix énergétiques du Japon, ils sont considérablement modifiés. L'orientation efficacité énergétique, elle est extrêmement forte. On a beaucoup aujourd'hui de questions qui nous sont posées, nous, en tant que consultants, hein, parce que ça fait partie de mon job, auprès d'entreprises, comment on fait pour réduire notre consommation d'énergie. C'est le deuxième point avec lequel je serais un peu en désaccord avec Alain aussi. Bah, allons voir ce qui se passe au Japon. Comment on fait pour réduire très fortement notre dépense d'énergie quand on n'a pas le choix. Donc le mix énergétique au sens demande-offre, il est en train de changer absolument considérablement au Japon. Ils n'ont pas décidé d'abandonner le nucléaire, mais la part de l'électricité d'origine nucléaire dans le mode de vie japonais, il est en train de baisser considérablement. Alors troisième point, je vais continuer à être désagréable. Là, c'est avec Jacques. Il n'y a qu'avec toi que j'ai été sympa. C'est que moi, je veux bien croire qu'on ait une industrie de pointe et je veux bien croire que tous les choix technologiques, là, je suis encore plus désagréable, mais là, c'est avec Areva. Je veux bien croire, mais j'aimerais bien quand même voir l'EPR sortir. Je rappelle qu'il était annoncé à 3 milliards d'euros et j'ai pas fait la généalogie hein, parce que j'ai un peu d'autres chats à fouetter, mais je pense qu'on devrait chercher 100. Il y a certainement des prix de revient objectifs qui sont inférieurs à 3 milliards d'euros. J'aimerais bien connaître le budget final de cette opération. Je suis sûr qu'il est plus de 6 milliards. Je suis pas sûr qu'il soit pas aux environs de 7-8 milliards d'euros, mais je n'en sais rien. Et donc il ne sort pas ce truc-là. Donc je veux bien qu'on soit des très doués, je veux bien qu'on soit formidable sur la question de notre production des nouvelles générations, mais j'aimerais bien qu'on en ait la preuve avant de l'affirmer. Je rappelle qu'en France, De Gaulle avait fait, pour des raisons historiques qui étaient très très acceptées socialement en France, hein, le choix du graphite gaz. Parce que c'était une techno française et que c'était donc une bonne manière d'être indépendant des Américains, je voudrais bien savoir si vous savez quelle est la technologie qui est employée dans le parc nucléaire français. Quelle est la technologie du parc français ? Dans les 58 réacteurs, il y en a combien de Westinghouse et combien de graphite gaz ? Donc la question l'avenir du nucléaire se pose de manière beaucoup plus nuancée. Il est tout à fait possible qu'on ait des technologies de Westinghouse qui soient bien plus performantes au niveau mondial et du marché que la technologie de l'EPR. Donc je ne veux pas qu'on prenne et ça me paraît stratégique, parce qu'on a des centaines de milliers de personnes dans cette activité. Il y a des ingénieurs qui bossent. Moi, je suis patron d'une petite boîte de conseil, donc j'embauche des jeunes. Je suis vraiment très, très sensible à la question de la motivation de ces jeunes. Est-ce qu'ils vont aller dans l'industrie ? Est-ce qu'ils croient à l'histoire que raconte Areva? Je vous rappelle quand même, sans trahir de grands secrets, qu'il y a un conflit majeur entre Areva et EDF sur la question de l'EPR. Donc voilà les deux, trois points que je voulais amener au débat, parce qu'il faut quand même qu'on débatte ensemble.
Alors, comme vous avez été désagréable, je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a voulu être très agréable avec vous, à moins que ce soit l'inverse, puisqu'il dit « Alain Grandjean, c'est un peu le Bayrou de la vie sur le nucléaire ». Question.
Merci beaucoup.
Question à Jacques, enfin ponctuellement, donc sur la question que posait Alain sur le parc français.
Non, alors la filière française du CEA, c'est, je pense que le représentant d'Areva peut répondre mieux que moi, mais c'est la filière UNGG, uranium naturel graphite gaz. Tous les réacteurs ont été arrêtés. À l'heure actuelle, les 58 réacteurs, c'est du Westinghouse. C'est la filière Westinghouse qui a été, on dit francisée, parce qu'en effet, on est plus dépendant sur le plan du brevet de Westinghouse. Mais c'est des réacteurs, ce sont tous les mêmes. C'est d'ailleurs un des arguments qui a été invoqué par EDF, c'est qu'à la différence des États-Unis où il y avait énormément de technologies, la France a en quelque sorte systématisé le même type de réacteur, ce qui est un facteur, je dirais, de baisse des coûts, parce qu'on a fait à peu près tous les mêmes. Ce qui est un avantage en termes de coûts, ce qui peut être un inconvénient potentiel, c'est que si vous avez un problème sur un réacteur, vous avez un problème sur les 58 réacteurs. Par contre, c'est un avantage en termes de coûts. Pour l'instant, on voit plutôt le côté avantage, parce qu'on n'a pas eu d'incident sur tous les réacteurs. Voilà.
Deux autres réactions, hein. Stockons les déchets nucléaires sur Mars ou il faut jeter les déchets radioactifs sur une autre planète. Alors ça, c'est un thème qui a été, on y a pensé, c'est un thème qui a été exploré dans la science-fiction, hein, avec des fusées cargo qui emmenaient des déchets très, 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 très loin. Oui, non, mais c'est ce que disait Jacques. Donc thème exploré dans la science-fiction, mais aussi dans la recherche. Dans la recherche. Il ne faut pas que la fusée revienne, il ne faut pas qu'elle ait un problème au décollage. Question à Bertrand. Enfin, suite, plutôt réaction à ce qui a été dit.
Je n'exprimerai pas sur la fusée.
Et puis, je vais trois questions aussi, mais qui rejoignent ce que disaient Alain et d'autres. Le nucléaire, ça coûte, ça rapporte combien à la France? Ça fait vivre combien de Français? La France pourrait devenir leader en éolien parce que c'est peut-être une industrie qui est nature moins dangereuse, mais Areva a fait des choses de ce côté-là. Et à quoi sert-il d'être à la pointe dans un secteur industriel qui ne s'exporte plus ou peu?
Alors, concernant la dernière question, énormément de pays ont des projets de réacteurs, hein, de parcs, et nous espérons bien exporter des réacteurs nouveaux dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de prospects. On n'a jamais répondu à autant d'appels d'offres. On n'a jamais vu autant d'appels d'offres à la fois. Par ailleurs, Areva, il y a 430 réacteurs dans le monde. Areva, d'une manière ou d'une autre, apporte des services dans 90% de ces réacteurs, soit de la vente de combustible, soit de la maintenance, soit de l'inspection, soit des gros équipements, ou soit le réacteur lui-même. Hein. Et deux tiers du chiffre d'affaires d'Areva est à l'export, alors que deux tiers des effectifs sont en France. Hein, donc, et notre chiffre d'affaires augmente. Hein, depuis Fukushima, notre chiffre d'affaires a augmenté, alors même que le marché japonais s'est bien sûr réduit, puisque les réacteurs à l'arrêt ne consomment pas de combustible pour l'instant. Voilà, donc il y a matière à exporter pour nous. Il y a réellement un avenir dans ce domaine-là. Puisqu'on parlait de filière, il est tout à fait vrai. Alors la France avait commencé par faire des réacteurs graphite gaz à l'uranium naturel. Pourquoi c'était très naturel? C'était parce que ça permettait de brûler de l'uranium naturel. Hein, et à une époque où nous n'avions pas encore les moyens d'enrichir de l'uranium nous-mêmes. Hein. Nous sommes passés ensuite, et ça a été un choix très judicieux, à la filière AO, qui elle avait été développée par les Américains parce qu'eux avaient enrichi de l'uranium depuis le début. Elle a été francisée depuis, c'est-à-dire que le 1300 MW a été fait sans Westinghouse. Le PR est une conception purement française, enfin franco-allemande, sans du tout Westinghouse. Notre pays a absolument tous les atouts, hein, dans le jeu, c'est-à-dire que nous avons d'abord une très longue tradition de physique nucléaire, et ce n'est pas Bernard Laponche, je pense, qui me contredira. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, dans le nucléaire, les lointains héritiers, même si on n'en a pas le savoir ni le talent, de Pierre et Marie Curie, hein, de Frédéric Joliot, d'Irène Curie. Donc, très longue tradition dans notre pays de physique nucléaire qui est tout à fait au premier plan. Nous avons un exploitant qui est le plus gros exploitant nucléaire du monde, avec un parc qui fait référence. Areva est leader dans son domaine de la construction de centrales et de services aux exploitants et de fournisseurs de combustible. Nous sommes et de services de retraitement. Nous sommes intégrés sur absolument toute la chaîne. Le CEA est un établissement majeur au plan mondial. Et ce qui est très symptomatique, c'est que la France est présente au plus haut niveau, de la R&D jusqu'à l'industrie, dans absolument tous les secteurs qui font le nucléaire d'aujourd'hui et le nucléaire de demain. Hein, qu'il s'agisse des réacteurs, de l'exploitation, de la fabrication de combustible, du retraitement de futures générations comme les réacteurs de quatrième génération au sodium, les surgénérateurs, qui seront les lointains héritiers de ceux que l'on a déjà eu dans notre pays. Donc nous avons absolument tous les atouts dans tous les compartiments de la filière nucléaire. Voilà. Peut-être, puisqu'on est sur la filière, on a parlé de militaire à un moment donné. Bon, les domaines sont vraiment distincts ou le sont devenus. Ils n'ont pas été, ils l'étaient au tout début, hein, c'est-à-dire que dans toutes les décennies d'avènement de la physique nucléaire jusqu'à la guerre et jusqu'au milieu de la guerre d'ailleurs, c'était un domaine qui était extraordinairement international, ouvert, où les gens communiquaient énormément ensemble et publiaient tout. Il y a eu un moment donné dans l'histoire un développement du militaire, c'est clair. Les deux sont absolument séparés. Et puisqu'on a dit de ce point de vue-là, là il faut quand même en être conscient, c'est quand même un point, enfin pas majeur, mais il faut savoir, on a parlé du plutonium. Bon, il a très mauvaise réputation, le plutonium. C'est un élément qui est produit par les lois naturelles de la physique. Il a existé sur Terre en grande quantité, hein, dans les âges géologiques, mais comme il a été créé parmi tous les autres éléments, mais comme il est radioactif avec une période de 24 000 ans, il a complètement disparu. On en trouve encore des traces sur Terre, issues des âges anciens de la Terre ou de l'univers. Et puis aussi, il se crée quelquefois naturellement parce que des neutrons qui viennent du cosmos interagissent avec de l'uranium et en font. Mais c'est absolument infime. Dans les réacteurs, un réacteur qu'on charge à l'uranium, il fabrique du plutonium, il en brûle une partie, il y en a une partie qui n'est pas brûlée. Au bout du compte, au bout d'un an de fonctionnement, le tiers de l'énergie a été produite par le plutonium. En revanche, alors là je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin de droite, Bernard Laponche. On ne peut pas, alors, on ne peut pas faire d'armes avec le plutonium qui provient des réacteurs que nous avons. Voilà. Il y a des réacteurs, tous les réacteurs, c'est la physique, font forcément du plutonium. Bon, ça pourrait prendre, des heures de débat, mais non, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Et aucun pays qui a fait des armes, ou voulu en faire, ou qui tenterait d'en faire, n'utiliserait ce genre de choses. Voilà. Je dirais volontiers un mot, finalement, puisqu'il a été dit, finalement, si nous devons continuer le nucléaire, il faut accepter un Fukushima de temps en temps. Non. Autant, en effet, on ne peut pas certifier qu'il n'y aura jamais d'accident, on ne peut pas le dire. Comme ça, autant l'accident de Fukushima n'est pas une fatalité, les dispositions et c'est l'objectif de sûreté absolument majeure, et il faut s'en convaincre absolument qu'une telle chose ne se produira pas en France. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Je pense, non mais on ne peut pas... Pour le dire autrement, on n'est pas en train de gérer une filière nucléaire en disant on accepte que de temps en temps il y a un Fukushima. Enfin, c'est pas ce n'est pas un état d'esprit que l'on peut avoir. Et pour rebondir là-dessus, finalement, qu'avons-nous appris de Fukushima? Qu'allons-nous apprendre et quelles sont les leçons de Fukushima? J'ai un peu parlé de ce qu'on a appris des accidents précédents. Bon, Fukushima a été causé par un événement géologique majeur. Notre pays n'est pas dans la même catégorie géologique, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'en tire pas d'enseignement. C'est-à-dire que la leçon, c'est que les installations doivent pouvoir résister et on doit absolument éviter une catastrophe de ce type lorsqu'elles sont placées dans des situations d'agression naturelle extrême au-delà de ce pourquoi elles ont été dimensionnées. Je crois que c'est la leçon principale hein, qui sera tirée de cet accident-là. Donc, même si on dépasse significativement les niveaux du référentiel qui sont établis avec beaucoup de conservatisme en fonction des données de notre pays pour l'hydrogéologie, la géologie, les séismes, même si on les dépasse significativement, l'objectif c'est d'éviter une catastrophe de ce type-là. Et c'est tout l'objet des évaluations complémentaires de sûreté qui ont été menées en France, qui ont été menées en Europe et qui vont aboutir à des modifications substantielles et un renforcement substantiel de la sûreté et de la défense en profondeur. Voilà, je voulais dire ça.
On peut dire, Bernard,
on peut pas reprocher à Areva de nous dire que le nucléaire est très bien. Bon, je vous reproche rien, c'est normal. Vous vendez des réacteurs, vous vendez du plutonium, vous vendez du retraitement. Donc, si vous disiez que c'est nul, vous démissionneriez immédiatement. Donc, dont acte. Il y a quand même deux, trois trucs. Cette histoire de plutonium, arrêtez de dire ce que vous dites. Le plutonium existe dans la nature à des traces infimes parce qu'au Gabon, il s'est produit un phénomène de fission parce que de l'uranium, du minerai d'uranium très riche a existé et donc il y a eu des fissions et donc il y a eu une certaine production de plutonium. Et peut-être aussi il y en a à travers quelques rayons cosmiques, etc. Mais ce sont des traces infimes. Dans les réacteurs nucléaires, on fabrique du plutonium en grande quantité. Et ce plutonium est extrêmement radioactif, extrêmement dangereux, puisqu'il possède en particulier des isotopes comme le plutonium-238, qui est radioactif alpha, très dangereux. Et c'est considéré comme l'un des corps les plus dangereux qui existent, puisque la dose maximale admissible par contamination, c'est un millionième de gramme. Bon, donc, contact, tout le monde le reconnaît. Vous, le plutonium est extrêmement dangereux. Alors, ce plutonium, la plupart des pays qui utilisent du nucléaire, sabotage. La plupart des pays qui ont des réacteurs nucléaires ne retraitent pas les combustibles, c'est-à-dire laissent le plutonium à l'intérieur des combustibles et stocke ces combustibles. Alors, je ne dis pas que c'est une solution très bonne pour les déchets, mais disons que le plutonium n'est pas isolé, n'est pas extrait. Il est extrait avec deux usines actuellement, en Angleterre à Sellafield et en France à La Hague. Mais je pense que plus de la moitié, probablement 60% des combustibles irradiés des autres pays ne sont pas retraités. Donc cette solution d'extraction du plutonium, qui est l'objectif du retraitement, puisque les usines s'appellent UP, usine plutonium, c'est une extraction qui a été faite initialement, et c'est comme ça qu'est né le nucléaire dans le projet Manhattan aux États-Unis, pour produire du plutonium pour faire la bombe. Donc plutonium, très dangereux, et je pense qu'on réduirait les risques actuels de production d'électricité d'origine nucléaire si on n'utilisait pas des combustibles au plutonium, puisque ce sont des combustibles et donc des usines très dangereuses, voire les déclarations de M. Repussard, directeur général de l'IRSN, sur cette question récemment. En général, je fais des citations, comme ça vous ne pouvez pas m'accuser moi de dire des bêtises, mais vous accuserez les gens de la sûreté. Deuxièmement, le lien avec le militaire a été constant. Il l'a été à l'origine, puisque toutes les techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans le nucléaire civil sont les techniques militaires. L'enrichissement pour faire de l'uranium enrichi, pour faire les bombes à uranium enrichi, le retraitement pour produire du plutonium, pour faire des bombes au plutonium. D'ailleurs, les deux bombes envoyées sur le Japon étaient l'une à l'uranium, l'autre au plutonium. Troisièmement, les réacteurs à eau, qui sont donc ceux qui, Westinghouse, qui équipent les réacteurs français actuels, sont les moteurs de sous-marins atomiques américains. Il est vrai que les centrales nucléaires actuelles, c'était gaz, avec les centrales à graphite gaz, on a fait du plutonium pour les armes. Et donc actuellement, pourquoi pensez-vous qu'un certain nombre de pays, le Pakistan, l'Inde, etc., Israël, l'Iran actuellement développe ces techniques, c'est pour la production d'uranium, peut-être pour faire des centrales productrices d'électricité, mais aussi, et c'est quand même de notoriété publique, pour avoir la possibilité de fabriquer soit de l'uranium très enrichi à partir des techniques d'ultracentrifugation, soit du plutonium à partir de centrales, de réacteurs nucléaires, qui soient d'ailleurs graphite gaz ou ordinaire. Et enfin, je regrette, vous pouvez demander aux spécialistes, on peut faire une bombe avec des combustibles, avec du plutonium extrait des combustibles irradiés, simplement, ce n'est pas du plutonium de qualité militaire, donc c'est une bombe qui peut aussi exploser, il doit falloir une douzaine de kilos de plutonium, alors qu'il en faut moins pour une bombe de qualité militaire. Donc les militaires n'aiment pas ce plutonium-là, ils préfèrent un plutonium plus pur, mais on peut faire une bombe, et en particulier une bombe de caractère terroriste, qui n'aurait pas une puissance considérable, mais qui, je vous garantis, exploserait.
Alors là, j'ai une injonction urgente, et donc j'obtempère immédiatement. Faites parler madame un peu.
Tiens. Ah mais c'est gentil, du coup j'ai deux micros. Non, je voulais juste faire un petit point à propos de la transparence qui me tient à cœur. Quand, pour les gens de ma génération, en fait, en France, au moment de Tchernobyl, on avait l'impression qu'on se moquait de nous, en réalité, vis-à-vis du nucléaire. Moi, je me revois au moment de Tchernobyl, m'entendre dire à la télévision... Pas de problème, ça n'atteindra jamais la France, c'est quelque chose qui est impossible chez nous. D'abord, le nuage s'est arrêté à la frontière. Et je pense que c'est une des raisons qui ont créé cette espèce de... une espèce de d'insatisfaction dans la population vis-à-vis du nucléaire. Ceci est le fait qu'il y avait une espèce de culture du secret en France de la part des ingénieurs qui travaillaient là-dedans. Et moi, j'estime que les progrès ont été vraiment immenses avec les autorités de sûreté nucléaire. Et on a bien vu, c'est l'impression que j'ai eue personnellement, hein, mais on a bien vu au moment de Fukushima qu'on a été quand même nettement mieux informés, qu'on a eu l'impression d'être vraiment informés de ce qui se passait avec précision et de façon mesurée et claire par l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc je vais vraiment insister simplement sur ce point, c'est que beaucoup des débats finalement peut-être en France ont été plombés par cette impression assez lourde que pendant longtemps on nous a raconté des bobards. Voilà.
Alors, dans la lignée de cette intervention, énormément d'anxiété donc, qui s'exprime, et je voudrais les citer. Donc, premièrement, les chantiers d'EPR, il y a beaucoup de malfaçons. Est-ce que ce n'est pas des signes inquiétants pour l'avenir ? Deuxième question, deuxième angoisse de nature totalement différente, est-ce qu'il y a des risques pour les populations qui extraient l'uranium ? Troisième point, si on interdit l'uranium, si on décide en Europe, suite à des processus démocratiques, d'arrêter le nucléaire, est-ce qu'on ne risque pas de repousser la construction de centrales nucléaires au-delà et dans des endroits où ça serait moins régulé. Quels sont les risques du transport, de l'enfouissement ? Une question qui est revenue à plusieurs reprises, quels sont les risques de la sous-traitance ? Et on sait que dans les centrales nucléaires, il y a souvent des sous-traitants qui travaillent avec des problèmes parfois de qualification. Le risque, la question aussi du terrorisme nucléaire, la question sur le fait que des gens de Greenpeace ont réussi à se balader sur le toit d'une centrale, et puis des expressions aussi de gens qui disent on est des jeunes, on s'inquiète des propos que vous tenez, non, on ne veut pas que prendre le risque d'un Fukushima, peu importe les atouts industriels, les jeunes générations veulent un environnement sain. Quelle vision court-termiste ? Voilà, donc je trouve que c'était intéressant d'évoquer ces interpellations et je voulais savoir si vous aviez des éléments à apporter à certaines d'entre elles. Bertrand.
Merci. Je vais tâcher de répondre à quelques questions, peut-être pas toutes. Les chantiers de l'EPR et les EPR, bon, nous avons eu des chantiers qui ont progressé plus lentement que prévu, que nous l'aurions souhaité. En Finlande et puis à Flamanville. Je verrai plusieurs raisons très, très objectives à ça. On n'avait pas reconstruit de réacteurs depuis un certain temps. Hein, donc il y a tout un métier, une machine à remettre en route. Et c'était un premier de série. Hein, donc là aussi, on a essuyé les plâtres. C'est souvent le cas dans des projets, dans tout domaine, dans des projets nouveaux, hein, et surtout quand ce sont des projets complexes. Si on considère le parc d'avant, finalement, le réacteur de Fessenheim, qui avait un grand frère ou un frère aîné, plus exactement aux États-Unis, un sister ship à Beaver Valley, a été construit en 7 ans. Dampierre 4 a été construit en 4 ans. Hein? Donc on voit quand même un effet d'entraînement, et nous voyons bien sur notre chantier chinois que les choses avancent beaucoup plus vite. Il y a eu un bon retour d'expérience et le calendrier est tenu. Les malfaçons, il y en a eu. Ce qui est important, et je dirais il y aura toujours en industrie des pièces à rebuter ou des défauts. L'essentiel est qu'il y ait des contrôles pour les voir et qu'on les répare ensuite quand on les a trouvés. Hein. Donc ça, on ne peut pas exclure des malfaçons, mais il faut être capable de les détecter et de les réparer. Et c'est tout l'objet du contrôle qualité tout à fait rigoureux, enfin important dans le nucléaire. Les mines, en effet, posent pour les mineurs qui travaillent des questions de radioprotection et de sécurité du travail particulières, qui sont réglées suivant les procédures particulières. Il y a de la radioactivité, notamment due au radon. Donc ça veut dire qu'il faut s'en protéger, on sait s'en protéger. La sous-traitance, ce serait un débat en soi et assez long. Il y a des tas de types de sous-traitance différents. La sous-traitance n'est pas forcément du tout loin sans faux un facteur de risque, mais il faut pouvoir gérer en effet les cascades de sous-traitants. Alors le terrorisme nucléaire ou dans les centrales, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Au plan de la conception de l'EPR. Alors évidemment, la lutte contre le terrorisme, c'est bien d'autres choses que la conception des installations et leur robustesse. Il y a des questions de renseignement, d'intervention, de gardiennage, d'évaluation des menaces. Tout ça, d'ailleurs, qui n'est pas sur la place publique, on le comprend bien. Une association Greenpeace, de temps en temps, va sur des sites pour challenger, je dirais, et pour montrer que la question se pose. Bon, à chaque fois, du retour d'expérience, on est tiré. On peut en prendre des leçons. Il y a un aspect aussi démonstratif en France qui est pris avec philosophie. Donc, il y a les deux aspects. Il y a les vraies questions que l'on en tire éventuellement, et puis l'aspect plus de communication dont il ne faut pas exagérer la portée finalement. Enfin, pour le dire autrement, je pense que personne ne s'aviserait de faire la même chose aux États-Unis. Moi je ne le ferais pas en tous les cas, parce que les Américains font moins le distinguo finalement entre ce qui pourrait être manifestation ou bien réelle attaque, et je pense qu'on risque de se faire abattre immédiatement. Enfin, je visitais les centrales américaines, voilà, donc je pense qu'il est il est sage dans notre pays qu'on sache un peu faire la part des choses, mais voilà. Et j'ai bien entendu le message des jeunes qui étaient dit sur le fait qu'il ne faut pas prendre le risque d'un Fukushima en France. L'objectif, en effet, est bien celui-là. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas... Enfin, il n'y a pas les consignes, la philosophie, l'état d'esprit de la filière nucléaire et des autorités qui la contrôlent, notamment l'autorité de sûreté, est quand même extrêmement rigoureuse de ce point de vue-là. Hein. Voilà.
Jacques, est-ce que vous souhaitez répondre à certains éléments de questions? Oui, ensuite.
Oui, sur la transparence, je crois que Kathleen a raison. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits. Je rappelle qu'en 1957, par exemple, à Windscale, en Angleterre, il y a eu en effet un problème avec un réacteur qui était de la forme UNGG. Hein. Donc les anciens réacteurs français, c'était le même type de réacteur. Il y a eu en effet émission de produits radioactifs dans l'atmosphère. On a très peu parlé à l'époque. On avait d'ailleurs un réacteur du même type qui était G1 et qu'on a arrêté tout de suite parce qu'il était dangereux. Donc on a gardé G2, G3, mais on avait arrêté G1. Donc il y a eu des progrès énormes. Avant, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Je crois que de ce point de vue, aujourd'hui, les choses se sont bien améliorées. Sur la sous-traitance, je crois qu'aujourd'hui, les opérateurs, c'est pas seulement vrai dans l'électricité, en sont venus au principe suivant. Quand on fait des appels d'offres, on exige des sous-traitants qui respectent les mêmes normes de sûreté que pour les salariés de l'entreprise, ce qui paraît en effet être la bonne mesure. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, parce qu'en effet, il y avait parfois des sous-traitants qui étaient soumis, enfin des salariés des sous-traitants qui pouvaient être soumis peut-être à des risques plus forts que les salariés de l'entreprise elle-même. Je crois que ceci s'est beaucoup amélioré. Alors simplement, je reviens sur les déchets. Quelqu'un tout à l'heure a posé la question, pourquoi on ne fait pas les déchets sous Paris? C'est parce qu'on cherche en fait des structures géologiques stables. Et les géologues nous disent, il y a deux types de structures géologiques qui sont très stables sur des millions d'années, c'est soit l'argile, soit le granit. Alors, on avait d'abord au début envisagé de stocker les déchets dans du granit. Et aujourd'hui, on stocke alors dans des endroits où c'est de l'argilite, en fait. C'est de l'argile extrêmement stable. On sait que cette argile ne bouge pas. Parce que le problème, c'est que si on stocke à 500 mètres de profondeur, il ne faut pas que dans des dizaines de milliers d'années, l'eau arrive pour... elle arrivera un jour. Bon, lorsque le jour, elle arrivera, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de radioactivité. C'est ça, le problème. Alors, évidemment, il ne faut pas que quelqu'un tombe dessus. Alors, on pense qu'il y a une mémoire du stockage pendant un certain nombre d'années. On pense qu'un siècle, deux siècles, ça existe. Hein. Il y a des équipements ou des installations qui ont survécu à plusieurs siècles. Donc l'important pour les spécialistes, et notamment c'était un grand débat au moment de la loi sur le stockage en France, c'est pour ça qu'on maintient la possibilité de réversibilité pendant un siècle. L'idée, c'est qu'il faut qu'au moins pendant 300 ou 400 ans, il y ait une mémoire du lieu. Ensuite, c'est peut-être un peu moins grave. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a des déchets dont la durée de vie est beaucoup plus importante. Ça a été rappelé tout à l'heure, le plutonium ou d'autres déchets. Donc, alors, le problème du transport, c'est un problème sérieux. Ce n'est pas tellement qu'il y a un risque pendant le transport, parce qu'il n'y a pas une masse critique qui pourrait avoir, des effets importants. Le problème, c'est le détournement de matières radioactives, ou c'est un accident qui pourrait provoquer, en effet... enfin, en général, les transports de déchets radioactifs, des précautions importantes sont prises. Ceci étant, là aussi, on ne peut pas dire que le risque zéro est absolument garanti. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de gros problèmes au niveau du transport.
Autre réaction de la salle. Le débat est aussi dans la salle. Hein. On peut être jeune et penser que le nucléaire est une solution de transition. Autre SMS, moins de centrales, c'est moins de risques. Le Japon l'a fait en consommant l'énergie différemment. Est-ce que la bourse du travail pourrait éteindre la lumière et l'iPad de Jean-Marc ? Alors, je trouve ce point de vue assez intéressant, puisqu'on a un comportement typique de passager clandestin qu'évoquait Kathleen, puisque la personne qui a envoyé ce message profite de la lumière et du fait que j'ai l'iPad pour lire sa question, et en même temps, elle propose de supprimer la chose pour les suivants. Et donc, voilà, ces comportements de passager clandestin, c'est très important dans ces débats-là. Alain ?
Oui, juste un mot... Sur la question de la certitude et de l'anxiété, parce qu'effectivement c'est un débat très anxiogène, cette affaire-là. Moi je pense deux choses. Je pense que quand on prend la voiture, on sait, et on la conduit, hein, ça m'arrive de prendre des voitures de temps en temps quand même, on sait qu'on a un risque d'accident qui est assez grave. On est en règle générale, hein, c'est pas une statistique absolue, on est en règle générale un peu moins inquiet, pour ceux qui sont inquiets, qui sont un peu phobiques comme c'est le cas, que quand on prend l'avion, parce qu'on pilote pas l'avion, on pilote la voiture. Donc il me semble que dans cette affaire-là, il y a un énorme problème de participation de chacun d'entre nous à la décision collective. Je pense que c'est un truc majeur. Et ce n'est pas juste une idée social-démocrate, il faut un débat. Je pense qu'il y a une question de fond qui est assez liée à ce qu'a dit Kathleen tout à l'heure, c'est que l'industrie nucléaire en France, elle a ce premier péché qui est ce péché d'absence de transparence. Donc j'ai fait l'école polytechnique, malheureusement, pour moi, je n'ai pas fait le corps des mines, mais le corps des mines est très connu. Pour avoir bétonné l'information. Mais il y a deux choses. Il y a aussi le côté, on est des sachants et on va vous expliquer le monde. Et donc, faites-nous confiance. Le problème de ce truc-là, c'est que finalement, c'est un peu anxiogène et démocratiquement, c'est pas très efficace. Le deuxième point, moi, qui me paraît évident face à l'anxiété possible, c'est la question des alternatives. Je pense que c'est plus anxiogène en France parce qu'on est plus dépendant du nucléaire pour la production d'électricité, dont on a absolument besoin, même sans ton iPad, et tout le monde le sait, enfin, je veux dire, on peut se raconter des salades. En revanche, quand on commence à réfléchir à la question des alternatives, il y a deux grands questions qui se posent. La première, c'est est-ce que Alain a raison de nous dire on s'empêchera pas de consommer toujours plus d'électricité ? C'est ce que j'ai cru comprendre qu'il disait. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une énorme fenêtre de tir en termes d'investissement sur la maîtrise de la demande et la réduction de la consommation d'énergie. Il y a plein, plein de choses à faire. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Bon, bah, ok, mais il y a des alternatives, on peut le faire. Et la deuxième question qui se pose en termes d'alternatives, c'est le message de Lacoste, que je trouve très intéressant au moment où il va partir, qui est de nous dire, les enfants, il y a un vrai problème. C'est que si moi, autorité de sûreté, enfin demain, mon successeur, il est devant un choix qui consiste à dire, les enfants, il va falloir arrêter une demi-douzaine centrale nucléaire pour des raisons de sûreté. Mais qu'il n'y a pas d'alternative en face, qu'est-ce qu'on fait ?
Avant de donner la parole pour conclure cet échange, ces débats à Alain Ayongle-Kama, je voudrais juste lire quelques dernières réactions. Le risque zéro n'existe pas, savez-vous que vous risquez de mourir en vous levant chaque matin ? Ça rejoint ce que tu disais sur l'accident d'automobile. L'accident nucléaire est une incertitude, le changement climatique une certitude, ne l'oublions pas. La personne qui a envoyé ce message tient à le signer, donc il s'agit de Jean-Hubert Gaillot. Si on justifie le nucléaire par notre position avantageuse sur ce secteur, alors la Colombie peut faire de même avec la cocaïne. Et deux dernières questions plus sérieuses, interpellations, et qui vont rejoindre, je pense que ce qu'a déjà dit Alain, c'est ce sur lequel peut-être il va revenir, et qui sont évidemment, c'est évidemment le cœur du débat, qui est comment peut-on faire des choix de société raisonnés alors que beaucoup d'informations sont peu accessibles pour les citoyens. Et on a bien vu que la question des probabilités, on ne sait même pas bien sur quoi on calcule la probabilité, donc, et on le fait dans différents secteurs énergétiques, et donc ensuite il faut trancher, c'est évidemment un choix politique, mais on le fait dans l'incertitude, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à se résoudre à faire, et question qui va dans le même sens. Pour les citoyens, le seul risque supportable est le risque choisi et non pas le risque subi, comme le dit Monsieur Le Kama, c'est un choix de société. À toi Alain pour conclure, et merci de me repasser la parole pour un tout dernier point.
Ok, non mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire, hein. La conclusion elle coule d'elle-même. Non, je pense que franchement, je vais revenir déjà sur l'organisation de cette table ronde. Kathleen et moi, quand on s'est posé la question de savoir quel thème on allait choisir pour cette table ronde, c'est vrai que la question du risque nucléaire nous paraissait évidente, mais je vous dis franchement qu'on a beaucoup hésité. On a beaucoup hésité parce que, comme disait Alain, c'est-à-dire qu'on se dit en général que les gens ne sont pas prêts à avoir un débat raisonné sur ces questions-là. On a eu la preuve de l'inverse, c'est-à-dire qu'on a quand même démontré cet après-midi qu'on est capable de discuter de cette question-là de manière raisonnée, de manière lucide et qu'avec des arguments qui s'opposent sans se confronter nécessairement. Et donc, pour cette question-là, je vous remercie déjà d'être venu la samedi après-midi, mais en plus, pour cette raison-là, je pense que les autorités publiques devraient en prendre graine, parce que c'est vrai que s'il y a bien, et c'est mon deuxième point et ce sera le dernier, s'il y a bien quelque chose qui ressort totalement de cette discussion et toutes les angoisses qui ont été listées, ces angoisses-là sont aussi quand même pas mal dû au fait, comme ça a été dit, du manque d'information. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'avoir une information sur ces risques-là et il faut organiser l'information de toute façon parce que, comme on l'a dit, et je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus, je pense que ça peut être un peu le mot de la fin, c'est bien, on fait face à des risques différenciés, on est tous des citoyens éclairés. Et donc la question, c'est nous mettre ensemble. Il faut qu'on organise nos moyens de nous mettre ensemble pour décider quel risque est plus important que quel autre. Et donc toute la question du risque nucléaire par rapport aux autres, c'est bien de l'organisation démocratique de la décision publique par rapport à ces risques-là. Et donc ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est que nos autorités publiques en prennent graine et que considèrent que les citoyens sont prêts à écouter des choses, même parfois un peu douloureuses, sur les risques et qu'on peut en débattre tranquillement et qu'il faut une participation la plus large possible. Je vais m'arrêter là, merci.
Merci. Je voulais juste faire un petit post-scriptum. Il y a eu plus de 100 questions. Moi, j'ai participé à un certain nombre de débats où il y a des questions qui viennent comme ça par SMS. Je n'ai jamais vu autant de questions. On a essayé de répondre à un certain nombre d'entre elles. Il y en a une qui touche de manière un peu connexe le sujet, mais comme on est dans un souci de transparence et non pas d'opacité, je vais la citer comme elle m'a adressé, je vais y répondre. C'est « Monsieur Vittori, où avez-vous acheté vos chaussettes SVP ?» Donc il s'agit de chaussettes Paul Smith que j'ai achetées en discount. Vous pouvez remercier le panel. Donc pause de 3 minutes avant de reprendre pour la dernière session de ces journées de l'économie.